Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le commentaire de
Steve Fortin, des positions pas comme les autres.
Hey Steve, avant de parler des sujets dont tu veux parler, je veux revenir avec toi sur l'entrevue que je viens de faire. Monsieur Claude Lavallée, un ancien policier de la SQ, OK, qui nous a dit qu'il a mis sous écoute pendant 9 mois Pierre Laporte, ministre du Travail, sous Bourassa, parce qu'il y avait des rendez-vous avec la mafia et la mafia l'avait aidé à gagner ses élections. Il était pendant 9 mois sous écoute jusqu'à ce qu'il se fasse enlever par le FLQ. Ils sont allés voir Robert Bourassa puis ils ont dit, écoute, ton ministre du Travail, il est sous écoute depuis 9 mois. On le soupçonne d'être lié à la mafia, puis il a dit continuez votre enquête. Et là, je me pose comme question, mon cher Steve, toi qui as vu le film Les Roses, ça se pourrait-tu qu'il était comme content de se débarrasser de Pierre Laporte, étant donné qu'il trempait dans des affaires louches, puis que c'est peut-être pour ça qu'ils se sont pas démenés fort pour le sauver? Je pose la question, là.
Écoute, j'ai lu et entendu toutes sortes d'affaires depuis concernant ces dossiers-là. Puis c'est pas tous les documents par ailleurs qui ont rapport avec la crise de 1970 qui ont été libérés. Hein. On sait que dans certains cas, on garde ça secret. C'est difficile pour moi de spéculer par rapport à ça.
On voit, Steve, qu'il y a encore 50 ans plus tard, il y a des zones d'ombre encore sur cette histoire-là. On connaît pas toutes.
Non. Puis même que au nom de la sécurité nationale, il y a probablement des documents là-dedans qu'on ne verra jamais de notre vivant. Et ce qui arrive, par exemple, et ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y a encore des gens qui sont contemporains de ça, qui sont encore vivants, et certains qui ont des mémoires encore très vives, qui ont la mémoire très vive et qui pourraient nous informer. Mais je crois que dans notre Québec, parfois un peu amnésique de son histoire, il y a peut-être des choses là-dedans qu'on préférerait qu'il ne soit jamais
révélé. Tout à fait. Tu sais, jusqu'à quel point la police avait infiltré le FLQ, jusqu'à quel point ils savaient où ils étaient, jusqu'à quel point ils ont rien fait pour sauver Laporte. Je m'excuse, mais c'est pas de la théorie du complot, là. Ce sont des questions légitimes qu'on peut se poser.
J'ai fait des entrevues il y a quelques années avec un ex-felkiste qui, lui, s'était réfugié en Outaouais. J'ai eu la chance de lui parler, de le questionner pas mal sur ce qui se passait. On avait parlé de Carole, j'essaie de me souvenir de son nom de famille, là.
Une indique qui était
pour le sol de la GRC qui avait essayé de refomenter des cellules du FLQ, en tout cas. Mais ce que j'avais réussi à apprendre là, de nouveau par rapport à mes discussions avec lui, c'était à quel point il y avait toujours des gens qui gravitaient autour des felkistes puis des révolutionnaires de ce temps-là. Il y avait toujours des gens qui arrivaient comme ça, puis c'était trop beau pour être vrai. Et ces gens-là, tout à coup, étaient des révolutionnaires. Il y avait un paquet, tu sais, puis c'est sûr et certain que il y a eu des doutes. Il y a des gens qui étaient, par exemple, proches du FLQ ou qui, eux, ils croyaient vraiment à la cause. Quand il y avait des nouveaux qui arrivaient ou des gens qui étaient là puis qui voulaient brasser un peu plus, parce que l'histoire des cellules du FLQ qui avaient été infiltrées par la GRC,
c'est vrai, ça.
Même de bombes qui ont été posées par des policiers. Je veux dire, ça a été documenté plus tard. Mais discerner le vrai du faux, puis les intentions de Robert Bourassa beaucoup plus tard, moi, tu sais, j'ai de la difficulté avec ça.
C'est dur. Et en tout cas, M. Lavallée nous a dit, lui, était agent de l'SQ, et on lui a demandé, lors de la fameuse nuit de la loi des mesures de guerre, on lui a demandé de faire des arrestations, de participer à la rafle, puis il a refusé. Et c'est pas vrai que moi, je vais arrêter des Québécois sans mandat, sans accusation, et dit vous m'enlèverez mon poste, vous me mettrez n'importe où, je m'en fous, je refuse de le faire. Ben bravo, M. Lavallée.
Ah oui, et un jour, il faudra documenter la mémoire de quelques personnes qui étaient là. Et je pense à Pierre Schneider, notamment, là, qui commente beaucoup sur les réseaux sociaux, qui était là à l'époque. Lui, il en connaît pas mal, par exemple, sur l'histoire de Bachand, ce felkiste assassiné en France, là, tu sais. Je veux dire, c'est ça. Il faut pas perdre cette mémoire-là. Puis non. Les gens qui sont contemporains d'histoires comme ça, il faut quand même récolter la tout le fruit de leur mémoire. De
et les 497 Québécois qui ont été arrêtés sans mandat puis qui ont croupi en prison pendant plusieurs jours, dans le film Les Ordres de Michel Brault, film qui est basé sur des témoignages, là, à un moment donné, le personnage joué par Claude Gauthier, on l'amène dans le sous-sol de la prison, puis on tire dessus, on dit « on va t'exécuter », on le met sur le dos au mur, puis on tire dessus avec un gun à blanc. Ils ont fait ça. Au Québec, on dirait que c'est une dictature latino-américaine. Là. On dirait que c'est le Chili.
C'est un œil au beurre noir, comme il y en a dans l'histoire du Canada. Et l'œil au beurre noir de 1970, et qui avait commencé à la Saint-Jean de 1968, je veux dire, ça, il y a quelque chose là-dedans qu'on préfère détourner. On se posera pas de questions pourquoi on ne souligne pas l'attentat du Métropolis, parce qu'on est exactement là-dedans. Il y a cette espèce de... On veut pas trop jouer, on veut pas tourner le fer dans cette plaie-là, parce que cette plaie-là nous rappelle ce sur quoi, comment notre société, elle a été bâtie, puis pourquoi en ce moment, certaines des iniquités qu'on voit dans ce pays-là et la frustration d'une part quand même légitime là, et assez grande de la population subsiste. On n'enseigne plus notre histoire, ou presque plus, en tout cas, où on trouve l'histoire conflictuelle, souvent, au Québec. On préfère ne pas trop enseigner l'histoire conflictuelle, mais ce conflit-là, il est à la base des débats qu'on a encore aujourd'hui. Puis si on ferme nos yeux sur ce qui s'est passé à l'époque, puis qu'on essaie de pas trop voir ça, ben on est condamné à revivre ces conflits-là.
Ben c'est ça, puis on dit, on veut pas parler de ça parce que ça va être un enseignement politique, ça va être une utilisation politique de l'histoire, puis là, on veut pas embarquer là-dedans, mais je m'excuse, mais ce sont des faits.
Ben oui.
Il s'est passé ça dans les années 70.
Je peux dire que pour un enseignant, par exemple, qui déciderait de son propre chef de vouloir parler de ça, tu sais, moi j'étais assez chanceux quand j'étais au Cégep, puis j'ai un enseignant d'histoire, M. Roger Blanchette, il a vu que j'étais intéressé par certaines de ces questions-là, puis en dehors des cours, il me disait, ben garde, ça c'est des lectures intéressantes. C'est lui qui m'a fait lire, par exemple, Louis Fournier sur l'histoire du FLQ. C'est lui qui m'a mis un bâton de dynamite idéologique dans les mains quand il m'a donné Nagblad d'Amérique. Puis je lisais ça, puis je m'informais, puis tout ça. Mais tu sais, maintenant, je veux dire, je ne sais pas à quel point on enseigne les relents de cette histoire.
Mais c'est pour ça qu'il y a des jeunes qui vont voir le film Les Roses, parce qu'ils ont soif de savoir, puis on ne leur enseigne pas ça à l'école. Ben heureusement, il y a Félix Rose qui le fait. Écoute, justement, parlant d'acquaintance et de liens troublants, tu veux me parler des liens troublants entre l'UPAC puis le Parti libéral du Québec?
Ben, en tout cas, là, ce qu'on apprend, puis je suis le procès de Marcel Forget, l'ancien numéro 2 de l'UPAC. Je suis ça avec intérêt. Puis ce qui est en train de se dérouler là, ce qu'on peut entendre et ce qu'on écrit par rapport à ça, moi, ça me rappelle deux choses. Premièrement, si c'est vrai, et quand même, là, il est sous serment, il témoigne, le policier Forget témoigne sous serment, à la base, c'est que lui, il dit, on m'a forcé de démissionner. Puis là, on parle du secrétaire aux emplois, là, une espèce de très haut fonctionnaire, un poste qui est névralgique dans le gouvernement. Apparemment que cette personne-là serait allée le voir, puis on lui aurait dit, écoute, t'as 3 minutes pour démissionner, puis tout ça, et on lui aurait reproché d'avoir été nommé à l'époque par le PQ. Et ça, pour moi, c'est une indication qui est très troublante, parce que là, on est dans les plus hauts échelons de la police au Québec, et tout à coup, on se présente devant un policier. Et ce policier-là témoigne aujourd'hui sous serment, et lui, il dit, on me reprochait ça. Puis on m'a donné 3 minutes pour démissionner, puis il fallait, on lui a dit, c'est toi qui vas prendre le fall, comme on dit en anglais, c'est toi qui vas faire la chute, parce qu'on ne peut pas toucher à Lafrenière, il vient d'être renommé par le gouvernement. Et là, ça nous amène aussi vers ce lien troublant que Lafrenière avait avec, par exemple, le Parti libéral, en tout cas le parti au pouvoir. Moi, je me souviens qu'en commission parlementaire, à un moment donné, Pascal Bérubé s'est levé pendant l'étude des crédits en sécurité publique, puis il avait demandé à Martin Coiteux, mais par quelle logique est-ce que vous faites vos points de presse avec, à côté de vous, le responsable de la police anticorruption, dont le mandat est d'enquêter sur vous.
Tout à fait.
Et là, dans l'opposition, il y a beaucoup de gens qui avaient été furax envers Pascal Bérubé, et beaucoup lui avaient fait des gros yeux, puis on était fâchés, parce qu'il pointait systématiquement, il mettait à mal systématiquement le gouvernement sur ces questions-là, sur ces questions d'éthique. Et moi, ça a toujours été pour moi quelque chose qui était absolument incompréhensible et inadmissible. que le boss de la police anticorruption soit systématiquement nommé, pas à 75% des votes à l'Assemblée nationale, comme d'autres postes névralgiques. Le Parti libéral s'est toujours gardé la prérogative de pouvoir nommer à 100% lui-même seul le nom de la personne qui était pour enquêter sur la corruption.
Écoute,
et ça, c'était inadmissible.
Ça sent mauvais. Là, on sait qu'ils ont créé l'UPAC, ils ont créé l'UPAC suite à une pression populaire à reculons. Il y a une pression populaire en disant, écoute, ça sent mauvais. Là. Il y a des allégations concernant le Parti libéral. Ils ont créé l'UPAC, puis une des rôles de l'UPAC, c'était de voir si c'était vrai ou pas qu'il y avait tant de corruption au Parti libéral. Et là, tu avais le ministre, Martin Coiteux, qui donnait son point de presse avec à côté Robert Lafrenière, qui était chef de l'escouade qui devait enquêter sur le Parti libéral. Et comme tu dis, puis en plus, lui, il avait été nommé par les libéraux.
Richard, permets-moi d'ajouter, parce que c'est important, à ce procès-là de Marcel Forget, il y en aurait beaucoup à dire, mais à toutes les fois qu'il veut parler de l'UPAC, de l'autre côté, le procureur, lui, va se lever puis il va faire objection, objection, objection. Fait qu'on n'entend pas ça. Et à toutes les fois, parce qu'il a voulu parler de Jean Charest à un moment donné pendant son témoignage, objection, on voulait pas entendre ça. À toutes les fois qu'on s'approche de cette espèce de nid de guêpe qu'est la corruption libérale, l'époque de Jean Charest, Philippe Couillard après, parce que lui, il a pas changé son équipe, là. Mmh. Ben, à toutes les fois qu'on s'approche de ça, c'est toujours la même chose qui arrive. Il y aura quelqu'un, on va s'opposer à ça. Et on n'entendra pas ça. Mais on n'a jamais fait la lumière là-dessus. Et là, dans ce procès-là, juste à côté, là, en filigrane, ben, t'as justement les enquêtes comme Machuré et tout ça. On entend ça. On l'entend. On le nomme. On va nommer ces enquêtes-là au procès. Mais on n'entend rien de concret par rapport à ça. Et pendant ce temps-là, ben, il y a des gens qui ont été accusés. Je pense à Nathalie Normandeau, par exemple.
Ben oui.
Puis on les laisse sécher. On les laisse sécher là. Puis ces gens-là sont des victimes collatérales.
Complètement.
De cette espèce de système-là qu'on ne veut pas déballer devant le public.
Et là encore, je veux pas tomber dans la théorie du complot encore, mais reste qu'on se souvient qu'il y avait une enquête, il y avait une filature même, puis Jean Charest s'en allait rencontrer quelqu'un qui était très suspect, qui était très douteux, et la personne qui faisait la filature, qui faisait l'enquête, a reçu un call en disant « on arrête là ». T'arrêtes ta filature.
Un repas où il y a le premier ministre puis qui va y dire à l'oreille, écoute, on est là dans des, on est là. C'est comme quand Lino Zambito s'est pointé où il était encore à ce moment-là, il était encore sa probation. Puis écoute, si lui il se présentait à la radio puis il racontait des balivernes là, il risquait d'aller en prison. J'ai parlé de ça avec Lino Zambito pendant des heures. Puis il disait, écoute, moi je me suis présenté au micro de Benoît Dutrisac, quand il a parlé de l'histoire de la valise d'argent, 400 000 piastres cash, on est avec Jean Charest, tout ça, dans cette époque-là. Écoute, il n'a jamais été poursuivi pour ça. Il n'y a personne qui a poursuivi. Jean Charest ne s'est jamais levé pour poursuivre non plus. Amir Kadir, qui a eu les carones grosses de même pour sortir de l'Assemblée nationale, puis son privilège de ne pas être poursuivi, puis qui est allé, puis il a dit, il y a le Parti libéral, c'est une organisation criminelle, c'est quasiment ça qu'il a dit. T'sais.
Mais non, puis il a dit, poursuivez-moi si vous voulez, je m'en fous, je le dis.
Ben oui. Puis il n'y a pas eu de politiciens qui ont été mis dans le box pour témoigner de cette époque-là, puis on n'en sait pas plus, même après la commission Charbonneau. Et d'ailleurs, la commission Charbonneau, j'ai toujours trouvé ça étrange après, parce que ça, c'est un avocat qui m'expliquait ça. Il dit, quand on a choisi le commissaire, l'ancien vérificateur général, Renaud Lachance, il dit, il y avait quand même quelque chose là-dedans, il y a un flag qui avait été levé à un moment donné, parce que c'est lui qui était vérificateur général pendant une bonne partie des faits qui étaient allégués aussi. Puis à la fin, ben je veux dire, son cours, le fait que lui avait décidé de s'inscrire en faux là, de quelques pages du document, là où on blâmait le gouvernement, fait qu'à la fin, je veux dire, l'espèce de c'est Renaud Lachance qui a permis à beaucoup de ces politiciens-là de se disculper quand lui est arrivé à la fin, puis il avait opposé une fin de non-recevoir par rapport à certains blâmes qui devaient être faits.
Non, écoute, ça sent mauvais, et comme mon père disait, quand ça ressemble à de la marde, quand ça sent la marde, quand ça goûte la marde, c'est probablement de la marde. Merci Steve Fortin. Bon week-end. Salut.
Martino, souvent imité, mais jamais égalé.